France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Il y a les faits et il y a les mots. La difficulté sémantique, mémorielle, morale à accoler les mots Israël et génocide. Mais les faits sont là et ils sont meurtriers. 20 mois, jour pour jour, depuis l'attaque terroriste barbare du Hamas, la guerre que Benjamin Netanyahou continue de mener à Gaza s'apparente de plus en plus au nettoyage ethnique que réclame l'extrême droite religieuse au sein de son gouvernement. Certes, le Hamas résiste, des otages israéliens vivants ou morts toujours entre ses mains, et l'organisation terroriste continue d'opprimer les quelques 2,5 millions de Palestiniens regroupés au sud du territoire. Mais la fuite en avant d'Israël ne s'arrête pas là. En Cisjordanie, les Palestiniens sont pourchassés par l'armée israélienne, le nombre de colonies juives augmente, autant de signes préparatoires d'une annexion pure et simple de la Judée-Samarie, selon l'appellation biblique utilisée par ceux qui la revendiquent. C'est aussi de façon à peine voilée la menace que brandit Jérusalem face aux Européens qui promeuvent la reconnaissance d'un État palestinien. C'est maintenant le cas de la France. Le président de la République devrait l'annoncer officiellement à l'ONU dans une dizaine de jours, même si le scénario d'une manœuvre diplomatique conjointe avec l'Arabie Saoudite en échange de sa reconnaissance d'Israël paraît maintenant exclu. La guerre israélo-palestinienne se déroule aussi au niveau des opinions publiques et cette guerre-là, Israël la perd, même si la défense de la cause palestinienne reste partout entachée de violences inacceptables. Quelques pays européens défendent le scénario d'une solution à deux États, dont l'Espagne, l'Allemagne, pour qui le soutien inconditionnel à Israël relève du devoir historique. Même l'Allemagne, par la voix de son nouveau chancelier, parle d'une tragédie humaine et d'une catastrophe politique sans justification. À Washington, en pleine pantalonnade du divorce Trump-Musk, le soutien à Netanyahou se renforce. Au-delà d'une portée symbolique, en quoi la reconnaissance d'un État palestinien peut-elle contribuer à arrêter la guerre, à calmer les souffrances? Que doit faire, que peut faire l'Europe? Eh bien, c'est la question que nous allons explorer ce matin grâce à Arantxa González-Laya. Bonjour, vous êtes doyenne de l'École des affaires internationales de Sciences Po, ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Daniela Schwarzer, membre du directoire de la Fondation Bertelsmann et du conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors. Rim Montaz, rédactrice en chef de la plateforme Strategic Europe chez Carnegie. Gérard Haro, diplomate, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, ancien représentant permanent de la France auprès de l'ONU, et David Kalfa, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Georges Aurès, co-fondateur du think tank international Atlantic Middle East Forum, qui va voir le jour, David, dans 2 jours, si j'ai bien compris. Gérard Haro, cette idée donc d'une conférence internationale co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite qui doit avoir lieu dans le cadre de l'ONU dans une dizaine de jours maintenant, quel est l'objectif? À quoi cela peut servir aujourd'hui de reconnaître un État palestinien?
Alors, soyons francs, en termes pratiques, la reconnaissance de l'État palestinien n'a aucune conséquence concrète. Aucune conséquence concrète, ça ne change rien sur le terrain. Si la France a toujours dit qu'elle reconnaîtrait un jour un État palestinien dans le cadre d'un processus de paix pour contribuer à donner une dynamique s'il y avait une négociation. Aujourd'hui, il n'y a pas de négociation, moins que jamais, vous l'avez dit. D'un côté, il y a une tragédie humanitaire à Gaza, dont on ne voit pas la fin. Et de l'autre, vous avez, en Cisjordanie, une entreprise délibérée de nettoyage ethnique au détail, avec les violences des colons aux dépens des Palestiniens. Et de plus en plus, à Jérusalem, dans ce gouvernement d'extrême droite, une réclamation, un appel à l'annexion de la Cisjordanie. Cisjordanie. Donc on n'est pas du tout dans le schéma que les autorités françaises avaient à l'esprit depuis maintenant des décennies. Hein. Ça remonte à François Mitterrand. Et donc aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est une réaction à une situation désespérée. La situation désespérée que j'ai décrite, que vous avez décrite, c'est un message envoyé par la communauté internationale, envoyé d'une part au gouvernement israélien sur le thème « Nous n'accepterons pas les faits accomplis que vous êtes en train de créer » et de l'autre, un message aussi aux Palestiniens, à l'opinion publique internationale sur le thème « Nous sommes prêts à vous soutenir dans la voie d'une négociation vers une solution des deux États. » Parce que ce qui est très frappant dans la politique israélienne, c'est son côté tout militaire. C'est-à-dire que le gouvernement israélien refuse de concevoir même. D'ailleurs, il affirme son opposition à un État palestinien. Et donc, la communauté internationale essaye de se saisir du sujet dont personne ne se saisit. Le gouvernement, les États-Unis sont totalement hors du jeu.
Pardon Gérard, je vous interromps. Oui, il y a déjà 147 pays qui ont reconnu cet État palestinien. Donc, l'effort maintenant du président français, c'est d'essayer d'entraîner quelques pays occidentaux. Il se trouve que cette réunion de l'ONU aura lieu juste après la réunion du G7 au Canada. Donc, il est question d'entraîner aussi le Royaume-Uni et le Canada dans cette reconnaissance. Donc,
et l'Arabie saoudite aussi, d'une certaine manière, puisqu'elle est partie à l'initiative.
Oui, mais l'Arabie saoudite était censée reconnaître en échange l'État d'Israël. On voit bien que Mohamed Ben Salman ne peut en aucune façon, face aux actions militaires israéliennes à Gaza et en Cisjordanie, il peut pas y aller. Rim Montaz.
Alors, je pense que ce qui est intéressant dans cette initiative, comparée à toutes les autres qui ont eu lieu depuis des décennies et qui n'ont pas en fait débouché sur deux États, c'est que il y a une vraie tentative de responsabilisation des Arabes dans la situation palestinienne, c'est-à-dire enfin arriver à une réforme de l'autorité palestinienne qui est essentielle, à un désarmement du Hamas qui sera vital pour assurer la sécurité et la dignité des Palestiniens, mais aussi la sécurité des Israéliens. Donc ça, c'est très important. Ça fait des décennies que les Arabes ont délaissé cette question des Palestiniens. Et de l'autre côté, il s'agit aussi de réengager, comme le disait Gérard, quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui du côté du gouvernement israélien, c'est-à-dire une perspective politique, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'ils sont dans un marasme militaire. Ils s'enfoncent dans des crimes de plus en plus sévères et graves, avec évidemment un peu plus d'engagement américain. Donc c'est un triangle qui est très vulnérable. La France essaye d'amener tout le monde autour de la table pour enfin déboucher sur quelque chose de plus concret. Là, cette reconnaissance, en fait, elle pourrait déboucher sur un changement sur le terrain. Pas l'arrêt, malheureusement, du nettoyage ethnique ou de l'annexion, mais le début d'une débauche sur un désarmement du Hamas, une réforme de l'autorité palestinienne, qui peuvent réellement déboucher sur un État. Après, il faudra regarder les détails importants qui sont quel territoire, la question des réfugiés palestiniens depuis des décennies, tout ça, on n'en parle pas pour le moment parce que ce sont des détails qui peuvent tout dérailler.
Oui, mais enfin, il faut quand même insister sur l'impuissance, pour employer un terme poli, des régimes arabes. La Ligue arabe s'est en principe mise d'accord sur un plan, évidemment théorique, comme tous les plans de ce genre, donc ça, à la limite. Mais sont-ils véritablement d'accord entre eux, alors que la question des frères musulmans, qui reste quand même une faille en leur sein, le Qatar étant le protecteur historique des frères musulmans, à l'opposé des autres régimes autoritaires qui en ont peur. Comment est-ce que les pays arabes eux-mêmes, impuissants à résoudre la question palestinienne en leur propre sein ?
Moi, je ne dirais pas qu'ils sont impuissants, je dirais qu'ils ont... Ils n'ont pas la volonté, pour le moment. Exactement. C'est ça, ce qui manque, c'est la volonté, pas la puissance. Aujourd'hui, par contre, on sent un vrai changement. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Qatar, ils sont prêts à s'engager, mais ils ont une condition importante. Enfin, deux conditions importantes. Ils veulent, et en fait, ils trouvent qu'il y a une valeur énorme à ce que la France reconnaisse l'État palestinien. Donc ça donne un levier réel à la France, même si on peut ne pas le prendre au sérieux. Mais du côté arabe, c'est un vrai sujet, une vraie demande. Et surtout, ils veulent que les Américains soient impliqués d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils ne veulent pas être devoir opérer sous la houlette des Israéliens à Gaza, et on peut le comprendre. Donc aujourd'hui, on a un moment où les Arabes montrent plus de volonté qu'avant, et il faut saisir ce moment pour les responsabiliser.
David Khalfa, il y a la volonté de saisir ce moment, à la fois du côté français, peut-être britannique, canadien, mais du côté israélien, la colonisation continue en Cisjordanie. L'armée est manifestement encouragée à utiliser ses armes, y compris contre des diplomates européens qui étaient en visite il y a quelques jours, qui se sont fait tirer dessus. Ils ont empêché la visite de ministres arabes qui était prévue. Donc, il y a cette déconnexion entre la réalité, comme souvent d'ailleurs, entre la réalité et cette dynamique que Gérard Haro et Rim Momtaz viennent d'expliquer.
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Rim. J'ajouterais, s'agissant des Arabes, qu'ils ont, pendant des décennies, instrumentalisé en réalité la cause palestinienne pour qui leur a servi de dérivatif. Et notamment dans la gestion calamiteuse de leur propre population au quotidien, et des rives autocratiques aussi de ces régimes, dont la légitimité est extrêmement fragile. Moi, ce que je note, si vous voulez, il y a deux éléments qui me paraissent, de mon point de vue, aller dans le bon sens, s'agissant de cette reconnaissance. C'est d'une part le fait qu'il n'y a pas de processus de négociation entre Israéliens et Palestiniens depuis 2014, donc depuis plus de 10 ans. Or, la condition pour une telle reconnaissance, comme vous l'aviez vous-même dit en introduction, c'était des négociations bilatérales. Il n'y a plus de négociations bilatérales. Donc cet argument ne tient plus. Par ailleurs, vous avez un gouvernement israélien, droite extrême droite, dont justement le flanc droit dit ouvertement qu'il souhaite une annexion formelle de la Cisjordanie. Donc une reconnaissance pourrait aller dans le sens d'une sanctuarisation de la solution à deux États. Ceci étant dit, moi je me pose la question de son efficacité. Et on doit prendre au mot le président de la République qui lui-même a voulu se démarquer des reconnaissances dites unilatérales faites par la Suède, notamment en 2014, et ensuite dans la foulée les Irlandais, les Espagnols, etc. La question que je me pose, c'est à quoi ça sert? D'une part, il y a un premier élément, c'est reconnaître in abstracto un État palestinien virtuel. Il y a une problématique d'abord juridique, puisque en droit international, un État, ce sont des frontières, une population. Là, il y a un problème de rivalité entre Gaza et la Cisjordanie, instrumentalisée par Netanyahou et sa coalition depuis toujours, mais il n'a pas créé ces conditions. Cette rivalité, elle existe. Le mouvement national palestinien est aussi travaillé par des forces centrifuges. Et cette rivalité, elle est à la fois politique et idéologique. Elle est féroce. Il faut se souvenir de la guerre civile interpalestinienne, pardon pour ce pléonasme, mais l'autorité palestinienne avait été évincée de la bande de Gaza en 2007 par la force. Donc là, il y a un élément quand même sur le terrain, concrètement, qui est un obstacle absolument majeur. Ensuite, il y a la question de la multilatéralité de cette reconnaissance, c'est-à-dire qu'elle est censée enclencher un processus de reconnaissance mutuelle. Donc l'État de Palestine par la France et Israël par les pays arabes qui n'ont pas encore reconnu cet État. Moi, j'avais posé la question à Lissa, qui est donc le chef de la Ligue islamique mondiale, qui avait briefé un certain nombre d'experts et de journalistes il y a quelques semaines à Paris. Et il m'a dit, sur un ton un peu cynique, je lui demandais, mais est-ce que donc du coup, le 10 juin prochain, l'Arabie saoudite s'apprête à reconnaître l'État d'Israël? Et puis il m'avait dit, ce qui est important dans la déclaration du président de la République, donc le président Macron, c'est le probablement. Donc ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'évidemment,
ce n'est pas probable.
C'est que l'Arabie saoudite ne le fera pas parce qu'on l'a dit, je ne vais pas le répéter ici, mais fuite en avant du gouvernement Netanyahou, coalition droite, extrême droite, MBS ne veut pas terminer comme ça date. Donc il ne le fera pas dans les conditions actuelles. Et dernier élément qui moi m'interroge sur, encore une fois, l'efficacité d'une telle reconnaissance, c'est on parle des conditions qui seraient mises à cette reconnaissance, donc démilitarisation du Hamas, etc. On est très loin d'une démilitarisation du Hamas, parce que Israël ne parvient même pas à le faire par les moyens militaires, et sur le plan
Israël,
politique...
Pardon, je vous interromps, David, Israël qui arme, semble-t-il, des clans...
C'est ça.
À Gaza, des clans hostiles au Hamas.
C'est ça.
Donc qui remet des armes dans le territoire.
Oui, en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est ils n'ont pas réussi avec l'outil militaire à provoquer un effondrement du centre de gravité politico-militaire du Hamas. C'est ce qu'ils veulent, c'est s'appuyer sur des clans, mais qui en réalité parfois ont des liens avec le crime organisé, pour renier la gouvernance, ce qu'il en reste du Hamas dans la bande de Gaza. Mais ce que je veux dire par là, le plus important, sans rentrer dans ce détail, c'est qu'on a une problématique absolument majeure, qui est celle, en réalité, on l'a vu lors de la dernière trêve, d'un Hamas qui, certes, est très affaibli, mais qui, quand même, a résisté aux assauts de l'armée israélienne, qui, quand même, a maintenu, sur une bonne partie de la bande de Gaza, son autorité. Et donc, je ne vois pas, dans les conditions actuelles, comment on peut enclencher un processus de démilitarisation. Il me semble, à ce stade, en tout cas, que c'est un vœu pieux.
Gérard Araud, évidemment, la France est la cible de critiques acerbes de la part du pouvoir israélien. Le ministre des Affaires étrangères israélien accuse Emmanuel Macron de mener, je cite, une croisade contre l'État juif. Il semblerait qu'il y ait eu un dîner à Paris avec le président de l'État d'Israël, Herzog, enfin dont le pouvoir, on le constate à chaque péripétie juridique, le pouvoir est quand même assez marginal. Est-ce que ça peut, d'une manière ou d'une autre, renforcer en fait la détermination de Paris à avancer sur ce dossier ?
Alors, excusez-moi, je trouve que notre conversation est un peu détachée de la réalité. C'est-à-dire que nous parlons en diplomate d'une solution diplomatique, alors qu'en réalité, l'initiative française, c'est une initiative dans l'urgence. Nous sommes dans une situation d'urgence.
Néanmoins, c'est une initiative diplomatique.
Diplomatique. Ce que je veux dire aussi, c'est que par rapport à toutes les nuances que l'on peut apporter, les questions qui sont formulées sur est-ce qu'on va désarmer, est-ce qu'on va pas désarmer, c'est en réalité, vous avez un Occident qui se trouve dans une situation politique impossible. Vous avez d'un côté une situation humanitaire abominable à Gaza, une politique israélienne dont on voit bien qu'elle ne mène nulle part, et un Occident qui est en train de perdre toute crédibilité dans le monde. Toute crédibilité. Comment pouvons-nous, dès qu'il y a une fusée qui tombe sur Kharkiv, hurler et nous avons raison, alors que nous taisons, vu ce qui se passe à Gaza. Je pense que c'est un élément très important, et d'ailleurs le président de la République s'y est référé dans ses conférences de presse lors de sa tournée en Asie. D'une certaine manière, alors vous pouvez voir cela avec cynisme, il faut que l'Occident prouve qu'il fait quelque chose, que l'Occident a des valeurs et qu'il ne peut pas fermer les yeux sur ce que fait Israël à Gaza. Et donc cette initiative diplomatique, d'une certaine manière, c'est aussi, alors de nouveau on peut parler, c'est aussi peut-être ce qu'on, je dirais pas une posture, mais c'est aussi un message en disant au reste du monde, nous sommes sérieux, nous défendons la cause palestinienne. En ce qui concerne les réactions des Israéliens, soyons francs, c'est un gouvernement d'extrême droite, voire avec des ministres fascisants, ils sont de toute façon, ils ne veulent même pas d'État palestinien. Et un des grands problèmes que nous avons à Gaza et auquel faisait référence David, c'est que si les Israéliens sont dans l'impasse stratégique dans laquelle ils sont, c'est parce qu'ils ont refusé toute solution politique. On ne se débarrasse pas d'un gouvernement, un mouvement terroriste contre le Hamas sans faire de la politique. Donc ils ne veulent pas faire de la politique, ils veulent aller de l'avant, ils veulent bombarder, ils veulent annexer.
Partons en Espagne vous rejoindre, Arantxa González-Laya, donc l'Espagne qui a reconnu l'an dernier, en même temps que la Norvège, l'Irlande et la Slovénie, cet État palestinien. Je rappelle que 147 pays ont déjà reconnu, donc surtout ce qu'on appelle, à tort à mon avis, mais c'est un autre sujet, le sud global. Donc comment jugez-vous la détermination française maintenant à avancer sur ce dossier ?
Je crois, Christine, que c'est très important de garder en vie la perspective d'une solution politique. Et c'est de cela qu'une reconnaissance de la Palestine s'agit. Ce n'est pas un geste inamical vis-à-vis d'Israël, et d'ailleurs, probablement, c'est un geste de plus sage pour garder aussi la perspective de la paix et de la sécurité d'Israël, mais c'est garder en vue une solution politique. Et pourquoi ça ? Parce qu'il n'y a pas de solution militaire contre un sentiment d'appartenance. On n'écrase pas par la voie militaire un sentiment d'appartenance. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, c'est vrai qu'il y a un mouvement terroriste, mais il y a aussi une population avec un sentiment d'appartenance. Et ce n'est pas possible de résoudre ceci que par une voie politique. Alors, c'est vrai que l'Espagne, avant 2024, avant l'année passée, elle avait une posture à peu près similaire à celle de la France, reconnaître la Palestine, ou reconnaître l'État de Palestine, l'existence de ce deuxième État à côté d'Israël, dans un moment propice où il est une négociation enclenchée entre les deux. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que c'est la manière de garder en vie la possibilité de ces deux États et donc la possibilité d'une négociation politique. Alors évidemment que l'année passée, nous nous sommes heurtés aux mêmes difficultés qui se heurtent aujourd'hui les présidents de la République française, accusation d'appuyer le terrorisme, accusation même complicité d'incitation au génocide contre les Juifs, antisémitisme, un usage que je trouve terrible, ce qui est un vrai fléau dans nos sociétés, qui est l'antisémitisme, mais cet usage politique à chaque fois qu'on n'aime pas ce qu'un autre gouvernement fait, ne fait qu'affaiblir l'État d'Israël.
Affaiblir l'État d'Israël, David Kalfa, le paradoxe, vu d'ici bien sûr, c'est que la fuite en avant militaire, militariste, militarisée de ce gouvernement qu'il faut bien qualifier d'extrême droite, est soutenue par l'opinion publique israélienne, au-delà de toutes les fractures que l'on connaît, les amis qu'on peut avoir, dont certains sont évidemment désespérés, mais il y a quand même, semble-t-il, ce sentiment d'union nationale qui perdure.
Alors précisément, c'est justement pas le cas. La société israélienne reste très fracturée. Elle l'était avant les massacres commis par le Hamas le 7 octobre 2023. Elle l'est d'autant plus depuis. Aujourd'hui, quand on regarde les sondages Pew Research Center, Institut pour la démocratie d'Israël, qui est un institut plutôt proche de la gauche travailliste et le centre libéral, on voit bien qu'il y a une majorité de l'opinion publique qui est favorable à un cessez-le-feu désormais permanent. S'il permettait donc le rapatriement de l'ensemble des otages vivants et morts, que en réalité la cote de popularité de Netanyahou s'est assez largement effritée ces derniers mois, que les dynamiques politiques en Israël, le vrai clivage qui existe en réalité en Israël, c'est entre, pour faire très vite, les pro-démocratie libérale et ceux qui veulent aller vers un régime illibéral majoritariste et favorable à l'opposition. Favorable à l'opposition qui est hétéroclite, qui va de la droite libérale à la gauche travailliste en passant par les partis arabes.
Pardon, je vous ai mal compris. Qu'est-ce qui est favorable à l'opposition dont on voit au contraire l'éclatement d'une certaine
Pour être
manière.
Tout à fait concret et précis, dans un peu moins d'un an, et à mon avis un peu moins d'un an, il y aura des élections législatives en Israël et tous les sondages, on sait qu'un sondage est une photographie à un instant T de l'état d'opinion publique, simplement la réalité c'est que tous les sondages depuis plus de 2 ans désormais disent exactement la même chose, c'est que Netanyahou perdrait le pouvoir si des élections devaient se tenir. Elles se tiendront forcément parce qu'il y a un cycle électoral qui est prévu donc en octobre 2026. Et donc c'est beaucoup moins clair que ça. La société israélienne, c'est une mosaïque éclatée, c'est une société extrêmement complexe, et vous avez une partie désormais de l'opinion publique qui ne comprend pas où va Netanyahou, qui ne comprend pas l'absence de stratégie de sortie de crise, et qui pense par ailleurs qu'il sacrifie le sort des otages sur l'autel de ses calculs politiciens.
Il y a la question très précise du service militaire auquel les ultra-religieux veulent se dérober, alors qu'une loi a été votée, me semble-t-il, allant dans ce sens. Est-ce que cette question-là pourrait faire tomber le gouvernement Netanyahou, comme semble-t-il, un certain nombre de ses membres le menacent?
Alors justement, la loi n'a pas été votée, c'est la raison pour laquelle les partis ultra-orthodoxes menacent de quitter le navire.
Elle est votée.
Ils demandent un vote, pour une loi qui exempterait justement les conscrits ultra-orthodoxes. Il faut savoir qu'il y a 80 000 jeunes ultra-orthodoxes qui sont en état de servir dans les rangs de l'armée et que l'armée israélienne, il lui manque à peu près 10 à 15 000 soldats. Parce que ce qu'il faut quand même rappeler, parce qu'on parle beaucoup d'Israël, on a raison évidemment d'être critique de cette coalition, de sa fuite en avant et de sa vision absolument catastrophique de ce conflit qu'elle alimente. Mais ce conflit, il s'est réduit pas en face à face entre Israël et les Palestiniens. D'abord, il y a le Hamas, faut pas oublier qu'il y a aussi une stratégie de l'autre côté. On la décrypte absolument jamais dans nos cadrages éditoriaux. On se focalise sur ce que font les Israéliens. On a raison de le faire.
On explique aussi ce qu'est le Hamas, son histoire. Enfin, on a force de le faire.
Oui, mais on se pose assez rarement la question de la stratégie de ses dirigeants, notamment politico-militaires. Quelle est leur stratégie? Il y a quand même un état de belligérance. Et puis surtout, si on dézoome, il y a une dimension régionale. On l'a vu avec le double affrontement en avril et en octobre 2024 entre Israël et l'Iran. Donc, je vous dis tout ça, je fais ce détour pour essayer, vous savez, Spinoza qui disait ni pleurer ni en rire, mais comprendre. Côté israélien, dans la psyché, il y a une espèce de tremblement de terre psychologique après les massacres du 7 octobre. Ça a réactivé et ravivé une mémoire traumatique, celle de la Shoah. Et en fait, ils voient le prisme à travers lequel ils voient ce qui est en train de se dérouler, c'est vraiment le sentiment qui mène une guerre existentielle, à tort ou à raison. Je dis ça parce que il ne faut pas croire que l'opposition à la reconnaissance de cet État de Palestine ne soit uniquement celle de la droite et l'extrême droite. Vous avez aussi une partie du centre. Malheureusement, on voit qu'il y a le soutien à la solution des États en Israël, c'est effondré. Vous avez moins de 30% des Israéliens qui soutiennent cette solution à deux États aujourd'hui, moins pour des raisons idéologiques et principielles, c'est pas une question de principe, c'est parce que depuis la seconde intifada, vous avez une gauche qui a été complètement détruite, laminée par, d'une part, la colonisation israélienne, l'assassinat d'Israël Rabin, mais aussi la campagne d'attentat suicide menée à la fois par le Hamas, mais aussi la branche armée du Fatah. Et jusqu'à l'attaque du 7 octobre, les Israéliens voient ça comme une succession d'étapes et perçoivent, si vous voulez, les Palestiniens qu'ils ont tendance à essentialiser comme étant hostiles à l'existence même d'Israël. Ce qui explique qu'une partie, y compris du centre, désormais s'oppose à la solution des États. Et donc il faudra être capable de répondre quand même à cette inquiétude. On peut la considérer comme étant caricaturale, grossière, etc. Mais elle est réelle. Et il y a une partie de l'opinion publique israélienne, pas la plus droitière, qui considère qu'une telle reconnaissance constitue une punition. Donc là, il y a quelque chose à travailler aussi côté israélien, essayer de les rassurer sur le fait que non, ce n'est pas une punition, qu'elle vise au contraire à essayer de sanctuariser cette solution à deux États, et qu'il n'y a pas d'autre alternative que la solution à deux États pour mettre un terme à ce conflit séculaire.
Raymond Taz, ce qui paraît assuré au gouvernement Netanyahou en tant que tel, c'est le soutien de l'administration Trump à Washington, même si la paix proclamée, revendiquée avec cet émissaire, Monsieur Witkoff, qui est un promoteur immobilier new-yorkais, dont la connaissance de la complexité au Moyen-Orient est pour le moins limitée, pour rester poli. Néanmoins, le soutien de Washington au gouvernement Netanyahou reste avéré et les livraisons d'armes continuent, bien évidemment.
Alors, c'est très intéressant la position des États-Unis parce que d'un côté, effectivement, les livraisons d'armes qui sont vitales pour la continuation de cette guerre continuent et ne vont pas s'arrêter. De l'autre côté, on voit que Trump et Witkoff commencent à perdre patience avec cette incapacité à délivrer un cessez-le-feu à Gaza. Et en fait, c'est là où il y a une opportunité pour cette initiative que la France conduit avec l'Arabie Saoudite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parle d'une reconnaissance de l'État palestinien dans le cadre de 2 ans au bout desquels il devrait y avoir une normalisation avec l'Arabie Saoudite. Donc là, la normalisation, elle est sur la table. Elle ne peut pas se faire aujourd'hui, étant donné qu'il y a un nettoyage ethnique à Gaza. C'est un peu difficile hein, pour l'Arabie Saoudite de le faire. Mais donc, un, ça donnerait une perspective bornée dans le temps. Et deuxièmement, ça répondrait à ce désir réel de Trump d'être celui qui a délivré le cessez-le-feu à Gaza, parce qu'en fait, il y a deux pendants de cette initiative. La reconnaissance, donc, parler de cet État d'une manière plutôt abstraite. Mais après, sur le terrain, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas de cessez-le-feu à Gaza, si la situation ne s'améliore pas à Gaza. Et c'est par ce bout que la diplomatie française essaye de tenir les Américains pour les engager et engager leur soutien, parce qu'il va être essentiel pour déclencher les Arabes et leur engagement. Et
donc, mais il semblerait, pardon, qu'il y a aussi des pressions de Washington sur Paris pour freiner, sinon empêcher cette initiative
Alors
française.
C'est intéressant, il y a une partie de l'administration qui est contre et qui dit des choses comme par exemple l'ambassadeur américain en Israël qui a dit que la France n'a qu'à établir l'État palestinien à Nice. Bon, c'est clair ce qu'il est en train de dire. Mais en fait, je suis aussi marquée parce que la porte-parole du département de l'État a dit là-dessus, où elle, cette semaine, on lui a
posé
la question.
Elle n'est pas toujours au courant, semble-t-il, de ce que dit son propre ministre.
Et ça, c'est un vrai sujet dans l'administration de Trump, c'est qu'il y a plein de chapelles qui ne se parlent pas nécessairement. Mais c'est intéressant que la porte-parole du département d'État dise « Ah, on n'a pas à commenter cette conférence, c'est déjà une positive par la négative », c'est-à-dire qu'elle ne dit pas « C'est terrible, cette conférence ne devrait pas avoir lieu ». Et surtout, Witkoff est intéressé par cette perspective, parce qu'en fait, il veut pouvoir délivrer ce cessez-le-feu, comme vous l'avez bien dit. Witkoff, c'est un promoteur immobilier. La complexité diplomatique d'un conflit historique ne l'intéresse absolument pas.
Mais on a aussi le sentiment que depuis la tournée de Donald Trump, qui était une tournée de levée de fonds, disons-le, pour les États-Unis d'Amérique et aussi pour la famille Trump, voilà, on a l'impression que c'est ça qui l'intéresse maintenant bien davantage que la dimension, d'un traité de paix.
Alors, vous faites très bien d'en parler, parce qu'en fait, dans les coulisses, pendant cette tournée dans les pays du Golfe, les Saoudiens et les Qataris ont dit très clairement au président Trump qu'ils étaient prêts à bouger sur cette question si lui pouvait s'engager en nommant soit un gouverneur pour Gaza de transition américain.
Gouverneur américain à Gaza.
Oui, on va
Donc
parler d'un
Donc plus la proconsul. Station balnéaire, là.
Si, alors la station balnéaire viendra plus tard, parce qu'il faudra bien reconstruire. Tout fait partie de toutes ces perspectives. Mais ce que je veux dire, c'est que les Arabes ont quand même parlé de cette question. Ils lui ont dit, nous, on ne peut pas vous aider si vous ne prenez pas au moins une position de commandement sans envoyer de troupes sur le terrain, sans que ça vous coûte de l'argent. Mais c'est juste que, comprenez, on ne peut pas, nous engager sur le terrain à Gaza tant que c'est sous le contrôle des Israéliens. Donc cette question a été soulevée. Ça, c'est la grosse condition qui est l'inconnue et sur laquelle la diplomatie arabe et française sont en train de travailler tous les jours jusqu'au 18. Et comme d'habitude, donc, il y a un moteur français, il y a un moteur arabe, mais la clé réelle est aux États-Unis et à Washington, avec un président tellement imprévisible.
Daniela Schwartzer, merci de nous avoir rejoint. Le dernier dirigeant à avoir vu le président américain, je ne dis pas en tête à tête, parce que maintenant le bureau Oval est un studio de télévision, néanmoins c'est le chancelier Merz. Comment, vu de Berlin, cette initiative française est-elle perçue au moment où le langage officiel allemand évolue véritablement vis-à-vis d'Israël?
Oui, c'est vrai que les positions du nouveau gouvernement sont assez surprenantes pour beaucoup d'Allemands qui ont observé que depuis le 7 octobre 2023, la position de l'ancien gouvernement n'avait pas changé. Il n'y avait pas de vraie condamnation de la manière dont Israël menait la guerre à Gaza. Et là, le chancelier Merz, 4 semaines après être arrivé au pouvoir, il a dit des choses d'une manière très très claire. Il faut comprendre que l'existence de l'État d'Israël, ça fait partie de la, on dit, raison d'État de l'Allemagne, même s'il n'y a pas une obligation légale, c'est quand même un propos politique de l'ancienne chancelière Merkel, qui aujourd'hui est vue comme un pilier de la politique étrangère allemande. Et même si ça, c'est toujours le cas, que l'État d'Israël, d'un point de vue allemand, est à protéger et que les Juifs partout dans le monde sont à protéger, quand même, c'est le gouvernement Merz qui a été très, très critique. Et Merz disait, lors d'une conférence il y a quelques jours, qu'il ne comprenait plus pourquoi l'Israël mène la guerre de la manière dont Israël mène la guerre à Gaza, comment on pourrait justifier tant de victimes. Et il mettait en question aussi la livraison d'armes à Israël. Même s'il n'y a pas de discussion politique approfondie sur cette question, il y a quand même un changement de position très clair, et le nouveau ministre des Affaires étrangères en a fait l'écho. Et donc, je pense qu'en Allemagne, l'observation est très claire. Il faut que la situation évolue. Comme il n'y a plus de soutien à Israël dans la manière de mener la guerre, je pense que l'initiative d'Emmanuel Macron est bien vue, même s'il y a beaucoup de réalisme. L'Allemagne souhaite depuis longtemps une situation négociée par rapport au rôle, en fait, à l'État de Palestine, qui pour l'instant n'est pas encore reconnu par l'Allemagne, mais qui reste un objectif dans le cadre des négociations qui devrait inclure une solution de paix avec deux États.
J'explique pour nos auditeurs qui sont évidemment habitués sur France Culture à une qualité de son parfaite que Daniela nous fait l'amitié de nous rejoindre alors qu'elle est en fait dans un aéroport. Donc ça explique le brouhaha. Gérard Haraud, les pressions qu'exerce Washington sur Emmanuel Macron pour freiner, sinon même empêcher l'initiative française sur un État palestinien, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un numéro de charme du président de la République au moment de la réunion du G7, qui, je le rappelle, intervient à la veille de cette réunion de l'ONU, et qu'avec un Trump tellement imprévisible, Donald Trump change d'avis?
Bah d'abord, Donald Trump change d'avis assez souvent en 24 heures. Je vais vous révéler, je suis un peu un Trumpiste dans le placard sur ce sujet, parce qu'il a beaucoup d'avantages, Donald Trump, dans cette crise. D'abord, il est totalement ignorant, et donc il n'est pas lié par tous les efforts de la diplomatie américaine, qui depuis 30 ans d'ailleurs ont échoué. Et deuxièmement, il n'est fidèle à aucune amitié, à aucune alliance, c'est-à-dire qu'il est totalement prêt à tordre le bras des Israéliens. On l'a déjà vu, il a signé un accord avec les Houthis, sans se préoccuper des Israéliens. Il a négocié avec le Hamas pour libérer un otage américain sans se préoccuper des Israéliens. Et là, maintenant, il négocie avec l'Iran sur le programme nucléaire sans se préoccuper des Israéliens. Et dernier point qu'il faut souligner, il n'est pas belliciste. Il veut mettre un terme au conflit, que ce soit en Ukraine ou à Gaza. Alors, il le fait de sa manière foutraque, c'est vrai, mais c'est quand même quelque chose, je dirais, c'est un élément nouveau. Il n'est lié par rien, et donc, lorsqu'il va rencontrer le président de la République, si celui-ci réussit à, si j'ose dire, à lui expliquer, à vendre sa proposition, en lui montrant que la proposition, la démarche française, en réalité, peut servir les intérêts personnels de Donald Trump, Trump n'aurait aucun problème pour changer du tout au tout sa position et en venir à soutenir Donald Trump, à soutenir Emmanuel Macron. Regardez ce qu'il a fait sur la Syrie. C'est quand même extraordinaire la manière dont il a accepté El Shaarah au point de dire que ce type était un terroriste formidable.
Après qu'Emmanuel Macron l'ait reçu à Paris.
Exactement. Après que Emmanuel Macron l'ait reçu à Paris. Donc, pourquoi pas? Tout est possible avec Donald Trump, le meilleur comme le pire.
Arantxa González-Leia, au niveau de l'Union européenne, on a appris donc que l'Union en tant que telle, qui, il faut le rappeler, reste le principal donateur d'aide étrangère à l'autorité palestinienne, l'Union européenne remet en cause les accords commerciaux avec Israël. Mais il n'y a que 17 pays européens sur 27 qui sont sur cette ligne-là. Donc, il y a une vraie division au sein des Européens.
Alors, au sein des Européens, Christine, il y a une Union européenne qui s'était positionnée très clairement après l'attentat des Hamas du côté de la libération des otages. Il y a deux forces qui sont au travail. La première, c'est de plus en plus des États qui se trouvent très mal à l'aise en face de la souffrance qu'on voit, une souffrance insupportable qu'on voit chaque jour sur la population civile à Gaza, mais aussi sur la population civile en Cisjordanie de plus en plus. Et d'autre part, ces problèmes de double standard, qui encore une fois, les positionnements très forts de l'Union européenne pour des relations internationales axées sur les valeurs, se voit aujourd'hui mis en question. Alors, c'est vrai que l'Union européenne a des leviers, à condition qu'elle veuille les utiliser. Alors, il y a maintenant un groupe d'États membres qui ont demandé à la Commission européenne de revoir l'accord d'association qui date de 1995, qui lie l'Union européenne et Israël. Et ils ont demandé de revoir cet accord parce que dans son article 2, cet accord, qui est les contrats entre l'État d'Israël et l'Union européenne, on parle du respect des droits de l'homme et des principes démocratiques comme étant un élément essentiel de cet accord. C'est une espèce de... les États membres de l'Union européenne sont confrontés à ces contrats qu'ils ont signés, qu'ils veulent bien faire appliquer ailleurs et qui, devant eux, ils ne peuvent plus ignorer. Alors, ils ont maintenant lancé un exercice de revoir cet accord, sachant que suspendre l'accord en soi nécessite d'une unanimité des États membres, chose qui n'existe pas aujourd'hui, mais que la suspension des parties de cet accord, la partie des coopérations scientifiques ou la partie des coopérations économiques ou même la partie commerciale est soumise à la règle de la majorité qualifiée. Donc, si tu veux, c'est une manière de mettre la pression sur Israël à un moment où cette pression... comme disait David, existe aussi à l'intérieur. Nous aurons à Sciences Po mardi l'opportunité d'écouter Ehud Olmert, le premier ministre d'Israël, avec Nasser Al-Kidwa, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères de la Palestine, qui viendront nous expliquer leur plan de paix. Donc, c'est-à-dire deux personnes très importantes dans ces contextes qui rament dans la direction où je crois que l'Union européenne voudrait ramer et que la France, clairement, voudrait ramer.
Précisément, David Kalfa, donc, c'est avec les mêmes deux protagonistes de marque, donc l'Israélien et le Palestinien, que vous lancez le même jour. Le matin, voilà votre nouveau think tank, et dont l'intitulé est intéressant en franglais puisque c'est l'Atlantic Middle East Forum. Pourquoi Atlantic? Ça veut dire que la dimension, comme l'ont dit autant Raymond Taz que Gérard Haro, la dimension américaine reste en fait la clé de cette tragédie.
Oui, on peut pas l'ignorer en fait avec toutes les limites qu'on a posées au comportement erratique du président américain actuel. On voit bien d'ailleurs sur la dernière visite de Trump dans les pays du Golfe qu'elle a permis d'enclencher un processus de stabilisation, notamment du côté de la Syrie, avec une levée partielle des sanctions contre le régime syrien, d'ailleurs maintenant total hein, côté américain. Oui, les États-Unis restent l'acteur central majeur. Moi, si vous voyez, je pense que l'approche qu'on a décrite de Trump, c'est-à-dire comme businessman adoptant une diplomatie de type transactionnel, à mon avis, elle est vraie, mais je pense qu'elle est réductrice. Je pense qu'il y a autre chose chez lui. Gérard Roy a raison de souligner que Trump n'est pas un belliciste et qu'il a comme visée, par ailleurs, le moyen, c'est la stabilisation de la région parce que il continue à vouloir se retirer en réalité du Moyen-Orient, et le meilleur moyen de le faire, c'est de sous-traiter la sécurité régionale à ses partenaires stratégiques historiques que sont d'un côté Israël, de l'autre les pays du Golfe. Et je pense que tôt ou tard, là, la normalisation israélo-saoudienne n'est plus du tout d'actualité, en tout cas à court terme, mais je pense qu'en revanche, à moyen terme, la question peut se reposer. Encore une fois, il y a les élections dans un an en Israël, probablement il y aura... donc l'opposition succédera à Netanyahou, il s'agira pour les Israéliens de réparer leur société et par ailleurs aussi leur image très dégradée sur la scène internationale. Et à mon avis, à ce moment-là, on pourra reparler éventuellement d'un processus de normalisation israélo-arabe qui ne pourra pas ignorer cette fois-ci la question palestinienne comme l'avaient ignoré les accords d'Abraham. C'était vraiment, de mon point de vue, la faiblesse de ces accords, même s'ils ont permis quand même même de faire baisser un peu la température dans cette région. Donc oui, les Américains jouent un rôle central, continueront à jouer un rôle central. Et on voit bien, l'Union européenne, on a mentionné à l'instant la question de la révision de l'accord d'association, c'est sur la table, mais je suis pas sûr que les Européens se mettent d'accord, même sur cette vision à minima de sanctions à l'égard de la coalition israélienne actuelle. La dernière chose que je voudrais ajouter, et je pense que de ce point de vue, on peut louer l'initiative française, c'est qu'elle s'appuie aussi sur la société civile, israélienne et palestinienne. Moi, je vous avoue, ma fatigue face à la radicalisation du débat public sur le conflit israélo-palestinien, quand on regarde le champ politique israélien-palestinien, il est en ruine. Il faudra que d'un côté, le mouvement national palestinien se réinvente, un nouveau leadership, un nouveau narratif de coexistence avec l'État d'Israël, et inversement aussi que les Israéliens fassent leur propre autocritique, la manière dont ils ont ignoré aussi la question palestinienne. Et pour ça, je crois que le meilleur moyen de le faire, déjà, sans attendre qu'on arrive là tout de suite dans l'immédiat à une solution à deux États, c'est de bâtir cette solution par le bas, en s'appuyant sur les intellectuels, sur les experts, sur les activistes qui au quotidien se battent pour une coexistence judéo-arabe, israélo-palestinienne. Je rappelle d'ailleurs à cet égard que il faut se souvenir que le processus d'Oslo au fond a été enclenché par des intellectuels. Ce sont des négociations.
Oui, mais
été...
ces intellectuels-là, David, ils sont désespérés pour la plupart. Enfin, on voit bien que cette société civile des deux côtés, elle est sans voix. Elle était épuisée, non ?
Alors moi, je n'aime pas me vautrer dans le pessimisme un peu facile. On attend à Paris plus de 300 Israéliens, Palestiniens, membres d'organisations, d'associations, d'ONG, qui défendent justement cette coexistence au quotidien et cette solution à deux États. Donc les bonnes volontés, elles existent. On ne leur donne pas souvent la parole, malheureusement. Vous en avez aussi beaucoup côté palestinien, parce qu'on parle beaucoup du Hamas, on a tendance à essentialiser la population gazaoui. Je vous rappelle les manifestations anti-Hamas. Et par ailleurs, vous avez des intellectuels, j'en citerai un seul, parce que je le connais bien, c'est un ami, Samer Sinjlaoui, qui fait un travail, dès le lendemain quasiment des massacres du 7 octobre, il s'est rendu dans les kibbutz du sud d'Israël pour manifester sa solidarité. Et depuis, il fait un vrai travail d'engagement avec l'ensemble des segments de la société israélienne, pas qu'avec d'ailleurs ce qu'on appelle le premier Israël, c'est-à-dire la bourgeoisie laïque ashkénaze, mais aussi l'Israël plus religieux, plus conservateur, plus nationaliste, parce que son objectif à lui, et je pense qu'il a raison, il veut d'abord convaincre les Israéliens de la nécessité de parvenir à une séparation, à un divorce et à une solution à deux États. Et je pense que c'est la bonne méthode.
Dans le même esprit, il y a le 13 juin à Paris, le Forum de Paris pour la paix, qui organise une journée spéciale, évidemment, pour préparer, encore une fois, le terrain, si j'ose dire, de cette initiative française de la reconnaissance d'un État palestinien. Rimontaz, ce qui est intéressant dans cette idée développée par David, sur la société civile, bien sûr, mais sur cette idée de sous-traitance, de la politique, de la diplomatie américaine. On voit que Trump, maintenant, va sous-traiter les négociations avec l'Iran, avec ses partenaires du Golfe. Donc là aussi, il y a une sorte de déplacement du curseur.
Alors, c'est clair, mais ça a commencé même avec la Syrie. Il sous-traite la Syrie à la Turquie, d'une certaine manière. Sur l'Iran, alors il y a une partie qui est très directe entre les Américains et les Iraniens, c'est sur la question du programme nucléaire stricto sensu. Après, sur la question des activités néfastes iraniennes dans la région, effectivement, c'est aux pays du Golfe de trouver leur modus vivendi avec l'Iran. Et si je rejoins ce que disait Gérard, la ligne directrice pour Trump dans toute cette région, c'est de se désengager, d'arrêter les guerres et de faire du business, et point à la ligne. Et donc, il a une approche qui, en fait, peut être une opportunité dans la région aujourd'hui. Je sais que ça peut peut-être hérisser certains, parce que quand on voit comment ils gèrent l'Ukraine et la Russie, c'est pas du tout sur la bonne voie. Mais dans les pays arabes, il faut reconnaître que le fait qu'il est très disruptif et qu'il ne se soucie pas du tout de ce qui a déjà été fait est en train de lui donner des marges de manœuvre. C'est pour ça que je reviens à cette initiative. Il est peut-être le seul président américain qui peut prendre une décision aussi disruptive que faire, je ne sais pas moi, un proconsul américain à Gaza, ou bien même juste un mécanisme comme celui qui existe au Liban, qui fonctionne pas très bien sur le Liban, mais qui pourrait peut-être fonctionner un peu mieux à Gaza, où il y a un Américain, un général américain, un général israélien. israélien, un général égyptien, un général saoudien, peut-être un français, qui gère un cessez-le-feu et le désarmement du Hamas. Parce qu'on a aussi du côté arabe aujourd'hui une ouverture à exfiltrer les commandants qui restent du Hamas à Gaza, ce qui en fait répondrait à une vraie demande israélienne, et ça pourrait d'ailleurs aider ceux qui sont dans le champ politique israélien, mais qui ne sont pas d'extrême droite messianique, à commencer à avoir des débouchés en disant, voilà, la question du terrorisme du Hamas est réglée, maintenant il faut qu'on construise une offre politique qui permette au peuple israélien et palestinien de vivre dans la sécurité et la dignité.
Benjamin Netanyahou, ce matin, a confirmé l'armement par Israël de clans familiaux, la plupart du temps, à Gaza. Gérard Araud, Rim Momtaz parlait du Liban. Israël a bombardé hier la banlieue sud de Beyrouth. Donc ce cessez-le-feu dont un certain nombre de puissances occidentales sont, et arabes sont les garants en principe, Israël ne le respecte pas, de la même manière que Israël bombarde, en évidemment en expliquant qu'il s'agit de protéger les Druzes, bombarde aussi la Syrie.
Bah oui, cette course en avant militaire israélienne, dont nous voyons les conséquences, notamment à Gaza, eh bien, elle s'exprime partout. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les Israéliens ne visent pas à un nouvel équilibre politique, mais seulement un nouvel équilibre militaire. Et là, on a vu Israël multiplier les opérations militaires en Syrie, alors que El-Shara ne cesse de dire qu'il veut avoir des relations pacifiques avec Israël. Il a même laissé entendre qu'il pourrait rejoindre, le moment venu, les accords d'Abraham. Et du côté libanais, il se trouve que pour des raisons historique, Rim et moi-même, nous connaissons parfaitement le nouveau Premier ministre libanais, et que ce nouveau Premier ministre libanais, comme le président Aoun d'ailleurs, à l'évidence, veut restaurer, reconstruire un Liban pacifique et certainement pas un Liban sous l'emprise du Hezbollah. Et que fait Israël ? Israël essaye d'affaiblir El-Shara et Israël, en réalité, porte des coups très durs au Liban. Et là, nous retournons sur Donald Trump, parce que Donald Trump peut arrêter les Israéliens. Donald Trump, d'ailleurs, on le voit du côté de la Syrie. Je suis convaincu que le nouvel envoyé de Donald Trump, Barak, qui est leur ambassadeur en Turquie, que j'ai rencontré, qui d'ailleurs est d'origine libanaise, peut dire, et qui est en ce moment à Washington d'ailleurs, peut dire il faut arrêter ce que font les Israéliens en Syrie parce que c'est déstabilisateur, mais il doit aussi pouvoir le dire au Liban. Je pense qu'une fois de plus, la solution est à Washington et que Trump peut très bien dire aux Israéliens vous arrêtez en Syrie et vous arrêtez au Liban. Il y a une chance sans précédent. On a une chance sans précédent de sortir du cauchemar. Et d'ailleurs, grâce, disons-le, à l'opération israélienne, c'est les Israéliens qui, en détruisant ou en affaiblissant considérablement le Hezbollah, qui ont permis à toutes les forces finalement positives du Liban et de Syrie de s'exprimer.
Quand Marco Rubio, donc le secrétaire d'État, qui est aussi en même temps le conseiller pour la sécurité nationale à Washington, fait une proclamation solennelle en disant nous, les États-Unis, allons interdire l'entrée à tous ceux qui proclament des opinions contre Israël. En même temps, il faut le rappeler que de l'expulsion de beaucoup d'étudiants en particulier, ayant exprimé avec plus ou moins de violence, hélas, leur soutien à la cause palestinienne, on voit bien, Gérard, qu'il y a de ce côté-là toujours, quand même, ce message qui consiste à rassurer le gouvernement israélien en place.
C'est pas seulement rassurer le gouvernement israélien en place, c'est aussi rassurer la communauté juive américaine quand bien même, sûr. Dans la mesure où les États-Unis, comme la France, ont connu une aggravation considérable, une montée du nombre des actes antisémites. Cela étant, ce gouvernement américain, cette administration américaine, elle est profondément illibérale. sur ce sujet, sur d'autres. Donc, ça ne la gêne en rien de limiter la liberté d'expression des Américains et des étrangers qui viendraient aux États-Unis. Et on a ce glissement au fond que l'on connaît aussi, ce qui était exprimé hier par par Jean-Yves Le Drian sur France Inter. On a aussi c'est vrai qu'il y a une augmentation des actes antisémites en France, énorme, hein, mais de l'autre côté, dès que l'on critique Israël, on peut être accusé aussi d'antisémitisme. Donc, trouver le bon équilibre est difficile, et l'administration américaine, visiblement, est tombée totalement d'un côté de cet équilibre.
David Kalfa, comme on veut quand même effectivement s'efforcer de conclure cette discussion, de façon très provisoire, bien sûr, sur une note sinon optimiste, en tout cas plus positive, plus constructive, ce nouveau think tank, donc, quel est son objectif ? C'est précisément d'encourager la société civile, où que ce soit, y compris en France, à participer de façon plus... plus positive, encore une fois.
Ouais, c'est sortir en fait de cette polarisation à outrance qui, de mon point de vue, pourrit le débat public, qui en réalité, en plus, par ailleurs, augmente le niveau d'hostilité, la température identitaire sous nos latitudes, mais aussi là-bas, parce qu'il ne faut pas croire que ce qu'on dit ici n'est pas écouté là-bas, en Israël-Palestine. Et donc, en effet, il s'agit de rassembler les bonnes volontés, donc les experts des meilleurs think tanks américains, arabes, israéliens, palestiniens et européens, les activistes, les ONG, pour justement essayer de construire d'abord intellectuellement ce qui pourrait être une solution à ce conflit, et au-delà en fait du face-à-face israélo-palestinien, plus largement, essayer de penser le Moyen-Orient dans sa complexité, dans ses dynamiques qui sont parfois contradictoires. Donc je pense que la compréhension, la rationalisation de ces enjeux, c'est la clé pour précisément faire avancer une solution politique qui, de mon point de vue aujourd'hui, ne peut être que régionale. Je pense que, à mon avis, on peut être tous d'accord ici sur le fait que ce qui peut changer la donne par rapport aux échecs successifs des négociations israélo-palestiniennes, israélo-arabes, c'est que précisément aujourd'hui, on voit bien que l'implication des pays arabes est absolument cruciale. Il n'y aura pas de reconstruction de la bande de Gaza sans une implication diplomatique, financière, politique des pays arabes et notamment des pays du Golfe. Il n'y aura pas de stabilisation régionale sans normalisation, sans intégration d'Israël dans son environnement géopolitique proche, et donc sans normalisation de ses relations avec le monde arabe. Et donc on a tout intérêt à essayer de faciliter ici, à Paris, je pense que Paris peut en être la plateforme, ce dialogue stratégique entre juifs et arabes, entre israéliens et palestiniens, entre israéliens et arabes. Et évidemment, il faut que dans ce triangle stratégique, il faut qu'on amène les Américains, parce qu'on ne fait rien sans les Américains, mais aussi les Européens. Ça me semble être la clé pour qu'on puisse avancer dans la bonne direction.
D'où l'adjectif atlantique.
Oui, c'est une dimension qui me paraît être absolument cruciale. Pour moi, il est évident que, encore une fois, malheureusement, sans les Américains, on ne pourra pas bouger dans le bon sens au Moyen-Orient.
Eh bien, le moment est venu de vous remercier tous les cinq. Donc, David, je rappelle aussi votre dernier ouvrage, Israël-Palestine, année zéro, aux éditions Le Bord de l'eau. C'était en octobre dernier. Gérard Arrault, vous avez publié un excellent Israël, le piège de l'histoire, qui est sorti en poche chez Taillandier en mars de cette année. Rim Momtaz, vous avez co-dirigé avec Émile Okayem une étude de l'IISS qui est parue en décembre sur les turbulences, je parle franglais, les turbulences dans la Méditerranée orientale. Je remercie aussi Daniela Schwarzer qui a publié un papier très intéressant sur la fin de la complaisance allemande vis-à-vis d'Israël, et Arantxa González-Layo sur le site du Conseil européen pour les relations internationales, un papier sur la manière dont l'Europe peut et devrait continuer à protéger le système multilatéral. Voilà, à la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, bien sûr, à la technique, Timothée Hubert. Théa Corler et Laura Dutèche-Pérez m'ont aidé à préparer cette émission, ainsi que Patricia Miura de la documentation de Radio France. Je vous signale que la semaine prochaine, du lundi au jeudi, de 11h à midi, Julie Gacon va consacrer son émission Culture Monde sur le thème « Regardez Gaza en face ». Voilà, nous sommes samedi, c'est le moment maintenant de passer la parole à Marina Carrère d'Encausse pour ses carnets de santé. Très bon week-end et à samedi prochain.